Je vous invite à suivre l'émission de nos grands congolais avec Alain Gondé, la présentation.
Bonsoir. Arrestation hier lundi à Paris de Calix Mbarushimana, secrétaire exécutif des FDLR. Il est soupçonné de crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans les Kivu en 2009. Quelle analyse faire de cette arrestation et quel pourrait être son impact sur la paix et la sécurité à l'est de la RDC? Trois invités participent à cette émission. Professeur Raphaël Nyabirungu, professeur de droit pénal, député national PPRD, avocat à la CPI et au Tribunal pénal international pour le Rwanda. Il est avec nous dans ce studio. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Guy Mouchata, chargé des programmes lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Maître Mouchata, bonsoir, vous êtes en ligne.
Bonsoir.
Soma Louaka Loseidola, avocat et député national MLC, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Vos réactions, comme d'habitude, nous les avons déjà. Paulin de Limba et Kinshasa. Je salue l'arrestation de Calix Mbarushimana, mais je regrette que la CPI ne s'intéresse pas aux crimes commis par des personnes et collaborateurs qui apportaient au FDLR un soutien matériel et en nombre de troupes sur terrain. Sylvain Banza Soumbou de Mbouzima au Kassai Oriental, le secrétaire exécutif des FDLR arrêté n'est qu'un maillon de la chaîne. Son absence sera couverte par l'un de ses pairs. Pour moi, ce problème des FDLR est un problème que la RDC doit traiter directement avec le gouvernement rwandais. Bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le secrétaire exécutif des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, soupçonné de crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans les Kivu en 2009, a été arrêté hier lundi à Paris, a annoncé la Cour pénale internationale. Selon un communiqué de la CPI, les autorités françaises ont arrêté Calix Mbarushimana en vertu du mandat d'arrêt délivré sous scellé par les juges de cette Cour le 28 septembre 2010. C'est la première personne mise en accusation par la CPI pour des crimes commis au Kivu. Le point avec vous, Pascal Masirika.
Calix Mbarushimana, âgé de 47 ans, qui dirige le FDLR depuis juillet 2016, est accusé par la Cour de la Haye d'être impliqué avec son groupe dans plus de 300 viols dans le Nord Kivu. La CPI avait émis un mandat d'arrêt à son encontre le 28 septembre. Il a été placé dans un centre de rétention et dans 5 jours, il sera présenté au procureur général de Paris avant sa remise à la CPI, a dit le parquet de Paris. Le procureur de la CPI, Luis Moreno Campo, qualifie son arrestation d'étape essentielle dans les efforts mené pour juger les crimes sexuels de masse commis en RDC. Calix Mbarushimana doit répondre de 11 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, y compris de meurtre, de viol, persécution fondée sur le sexe et destruction de propriété, des faits qui auraient été commis en 2009. Son arrestation est le résultat de 2 ans d'enquête commune menée par la France, l'Allemagne, la RDC, le Rwanda et la CPI.
Merci Pascal Masirika, professeur Nyabirungu. Comment vous accueillez cette arrestation?
Avec beaucoup de satisfaction, parce que personne ne peut perdre de vue le mal que les forces négatives ont causé aux populations congolaises, aux populations du Nord et du Sud Kivu, et plus particulièrement aux territoires de Rutshuru, de Walikale, de Beni, de Nyiragongo, etc. Il s'agit d'une satisfaction en ce sens que, pour la première fois, nous avons la preuve que la Cour pénale internationale s'intéresse enfin aux crimes commis dans les deux Kivu. Parce que, n'oubliez pas que jusque-là, la situation en République démocratique du Congo a été examinée par la Cour pénale internationale uniquement à travers le cas de l'Ituri, à travers notamment les affaires Thomas Lubanga, les affaires Germain Katanga et Ngondjuru. Donc c'est très important que cela se fasse aujourd'hui et que les populations meurtries aient enfin la preuve que la Cour pénale internationale s'intéresse à leur mort. Voilà pourquoi je dis que c'est une nouvelle accueillie avec beaucoup de satisfaction.
Le professeur secrétaire exécutif des FDLR, oui, mais est-ce que Calix Mbarushimana avait-il encore un pouvoir quelconque par rapport aux crimes commis sur terrain par les FDLR?
Ce n'est pas à nous de le dire ni de le savoir, puisque nous n'avons pas enquêté à ce sujet, mais nous sommes confiants dans les démarches du procureur, en ce sens que il ne peut pas délivrer ou demander à la Cour de délivrer un mandat s'il n'y a pas des éléments suffisants qui laissent croire que des crimes d'une gravité particulière, comme ceux-là qui relèvent de la Cour pénale internationale, ont été commis. Donc, il doit y avoir nécessairement un lien entre le pouvoir qu'il a exercé et les crimes qui ont été commis sur le terrain. Mais au stade actuel, il ne faut pas nous demander de répondre comme si nous étions des juges.
Exactement, vous avez raison, et ce n'est pas un tribunal ici. L'émission est tout à fait pédagogique, c'est pour permettre aux auditeurs de comprendre toutes les articulations. Maître Guy Mouchata, quelle est votre analyse à vous? Le professeur Nyabirungu parle de satisfaction.
Oui, je partage effectivement le point de vue du professeur Nyabirungu, que je salue déjà en passant, parce qu'effectivement, vous vous souviendrez que dans la plupart des analyses ou dans le cadre de notre travail, comme ONG internationale qui collabore avec les ONG locales pour les questions de différentes impunités, et de justice transitionnelle de manière globale. Nous avons formulé beaucoup de critiques à l'égard de l'action de la Cour pénale internationale, dont la compétence jusqu'à présent, dans le concret, s'était limitée dans la province orientale et particulièrement dans les districts de Vitouri. Et nous avions demandé qu'au plus fort donc du conflit opposant les groupes armés, avec les forces de la République démocratique du Congo dans le Kivu, que le procureur envoie un message très fort en adressant des mandats d'arrêt contre le plus haut responsable de ces atrocités qui se commettaient dans le cadre de ce conflit. Cela arrive maintenant, on ne peut pas dire pour le moment que le Nord Kivu se trouve dans une situation sécuritaire confortable, une sécurité irène. Vous vous souviendrez des cas de viols qui ont été encore commis récemment. Et ceci constitue donc un motif de satisfaction pour dire à tous ceux qui sont des violateurs des droits de l'homme et qui commettent des graves violations des droits de l'homme, et en particulier les viols, que ce soit des viols ordinaires ou des viols massifs, qu'il est toujours possible qu'ils soient rattrapés par la justice et que les crimes qu'ils commettent sont des crimes qui sont d'un ordre imperceptible et qui intéressent donc toute l'humanité. Il y a là donc une question de satisfaction et aussi de pertinence donc de l'action de la CPI en République démocratique du Congo, qui n'est pas seulement focalisée au niveau de l'Ituri, mais on voit bien que cette compétence est une compétence qui concerne l'ensemble de la République.
Voilà, honorable Thomas Luaka Losengola, vous êtes avocat et député national MLC. Satisfaction du côté du prof Nyabirungu, de Maître Mouchata, qui dit que pour lui, ça valorise un peu plus l'action de la CPI en RDC. Quelle est votre analyse à vous?
Non, je pense que ce qui vient de se passer, l'arrestation de ces sujets rwandais par la France, est une très bonne chose. Je partage tout à fait l'opinion du professeur et de maître qui vient de s'exprimer, mais pour trois raisons essentiellement. La première raison, c'est que c'est un message clair pour les acteurs qui continuent actuellement à commettre des impunités, des exactions contre la population congolaise sur le terrain, et l'impunité n'est pas garantie. Donc c'est vraiment un message clair vis-à-vis de ces acteurs-là. Deuxième élément, je pense aussi c'est un message de consolation, de soulagement par rapport à la population locale, essentiellement la population kivusienne, parce que dans l'imaginaire populaire, en tout cas des gens de l'Est, ils considèrent parfois qu'il y a une complaisance, pour ne pas dire une complicité,
Ouganda, de la communauté internationale dans le drame qui se vit à l'Est. Parce que chaque fois on a vu, lorsque ça se passe dans d'autres pays, il y a tout de suite levé des boucliers de la communauté internationale, mais lorsque cela se passe en RDC, en particulier dans le Kivu, on a l'impression que c'est bon, juste bon pour amener de l'assistance humanitaire, mais la poursuite des auteurs de ces drames n'est pas toujours garantie. Donc aujourd'hui, la population peut être rassurée que la communauté internationale a toujours été au courant de ce qui s'est passé, mais aujourd'hui montre sa volonté de pouvoir contribuer à ce que ces crimes soient sanctionnés. Et troisième élément, c'est aussi dire aussi à tous ceux qui sont dans le Kivu ou ailleurs que la faiblesse actuelle de l'État congolais n'est pas une garantie d'impunité. Parce que là, on a vu, malgré les défaillances de notre appareil judiciaire, malgré les défaillances de nos forces armées, et les faiblesses de nos forces armées, aujourd'hui, la communauté internationale, à travers la CPI, s'est accaparée du dossier, et qui est un dossier symbolique, je suis tout à fait d'accord avec vous. On verra peut-être les implications sur le terrain en deuxième partie de cette émission. Mais à ce moment-ci, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Nyabirungu, c'est une très bonne chose.
De Thomas Loaka à Los Angeles, il y a cet auditeur Joël Nguéné d'Arouan, province orientale, qui dit: je constate que la CPI arrête les chefs rebelles africains sans inquiéter ceux qui leur fournissent les armes, les munitions et autres moyens.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a remarqué qu'aujourd'hui, les clients, les gros clients de la CPI, c'est tous des Africains. Cela parfois pousse les gens à se poser la question si la CPI, ce n'est pas un instrument mis en place par l'Europe ou l'Occident pour pouvoir reprendre le contrôle sur l'Afrique ou les Africains, mais au niveau où nous en sommes, les cas qui nous concernent aujourd'hui, je ne peux pas me lancer dans ce débat philosophique pour savoir quelles sont les arrière-pensées qui sont mises en place. Aujourd'hui, moi, ce que je peux considérer, c'est que l'arrestation de ce haut cadre de FDLR par les autorités françaises est une très bonne chose. Maintenant, si nous voulons développer sur la finalité ou les objectifs à long terme de la CPI, je crois que cela nécessiterait toute une émission et nous n'aurons pas le temps aujourd'hui.
Professeur Nyabirungu, Thomas Loaka a dit, c'était son troisième point, la faiblesse actuelle de l'État congolais n'est pas une garantie de l'impunité.
Pour comprendre la justice internationale, il est à mon avis très important de remonter un peu à son origine. Ce que je situe, un peu grossièrement, j'en conviens, à la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque l'humanité a dû subir une des épreuves les plus graves de son histoire, avec plus de 60 millions de morts, sans parler des populations blessées ou déplacées. Et à cette époque, c'est l'horreur des crimes commis qui a inspiré aux puissances alliées, en quête desquelles je me permets de citer Winston Churchill, et qui disait ceci: l'horreur des crimes commis est tellement grave que ceux-là qui les ont commis devront subir le châtiment le plus extrême. Et il était temps, disait-il, que la communauté internationale envoie à tous les hommes, à tous les habitants de la Terre, un message non équivoque selon lequel les crimes commis seront imprescriptibles, c'est-à-dire qu'ils ne seront jamais oubliés. On s'en souviendra jusqu'à la fin des temps. Et que, d'autre part, les auteurs de tels crimes seront poursuivis jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire ne bénéficieront jamais d'une cachette.
Alors, par rapport à l'assertion de Thomas Loaka, professeur?
Non. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? La faiblesse de l'État est une chose qui a été constatée, même si l'État fait des efforts de se relever. Mais en même temps, nous ne pouvons pas oublier une chose par rapport à votre question. La CPI, pour nous, pour moi, d'après mon analyse, est une nécessité. Pourquoi ? parce que son organisation, son fonctionnement, l'exercice de ses compétences repose sur un principe fondamental, à savoir la complémentarité. Cela veut dire que, au fur et à mesure que les États et la justice des États s'acquitteront de leur travail, jugeront les crimes les plus graves, la CPI n'aura rien à faire. C'est parce que nos États, tantôt, n'ont pas la capacité de juger, tantôt n'ont pas la volonté de le faire, que la CPI trouve une brèche dans laquelle elle s'engouffre et juge les personnes qui ont commis ces crimes, qui ont fait mal à toute l'humanité et non pas à une seule population et à un seul État.
Merci, professeur. Maître Guy Mouchata, quel est votre commentaire à vous par rapport à l'assertion de Thomas Louaka sur la faiblesse de l'État congolais qui n'est pas une garantie de l'impunité?
J'ai renchéri sur ce que disait le professeur, que ces crimes sont des crimes imprescriptibles qui touchent à toute l'humanité. Ça signifie que ce sont des crimes qui doivent être réprimés à quelque moment que ce soit. Et les mécanismes de la justice internationale sont aujourd'hui tels que le principe de la complémentarité permet à un moment donné de pallier la carence de l'État, donc la faiblesse de l'État. Si aujourd'hui l'État congolais n'est pas capable de pouvoir poursuivre ce crime pour le plus haut gradé, la CPI le fait et en attendant, le système national se renforce et une fois renforcé, cela doit s'inscrire dans une stratégie nationale et dans un plan national de lutte contre l'impunité pour que petit à petit, le système national puisse prendre les relais et continuer la poursuite de ces crimes. On ne peut pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, rien ne se fait en République démocratique du Congo pour la lutte contre l'impunité. Vous avez eu vent que le Haut Commissariat aux droits de l'homme a publié le 1er octobre un rapport accablant donc sur l'exercice du mapping, donc la cartographie des crimes qui ont été commis entre 1993 et 2003. Ce rapport aura une suite qui permettra certainement que des poursuites pénales soient engagées à l'encontre de ceux qui ont commis des crimes. Bien sûr, tous ces crimes ne tombent pas sous la compétence de la CPI. Il y a des crimes qui sont commis à partir de l'entrée en vigueur du statut de Rome et donc à partir du 1er juillet 2002 qui sont de la compétence de la Cour pénale internationale. Et là, justement, il faut préconiser un partage de responsabilités dans la répression entre les juridictions nationales et la Cour pénale internationale. De nombreuses personnes pensent pour ce qui est des crimes du passé qu'il faut, à la suite du matin, trouver un tribunal spécialisé ou un mécanisme judiciaire efficace combiné avec d'autres mesures de justice transitionnelle, c'est-à-dire une commission de vérité, pour faire face au crime du passé, mais sans oublier le crime actuel. Je pense qu'il y a une dynamique qui s'enchaîne, une dynamique qu'on ne pourra jamais arrêter, surtout pas avec le dynamisme de la société civile. Je viens de sortir tout à l'heure d'un forum sur la réparation en matière de violences sexuelles organisée par le Haut Commissariat aux droits de l'homme, et on a eu la présence de la Haut Commissaire à Gante elle-même qui a fait un périple de 16 jours à travers le pays pour rencontrer les victimes donc de violences sexuelles. Et c'est très très important aujourd'hui là qu'on puisse avoir un cas où la CPI frappe quelqu'un qui, à mesure présente, des caractéristiques importantes. Il s'agit d'abord d'un sujet étranger qui a commis des crimes sur le sol congolais. Vous savez que beaucoup de crimes qui sont commis à l'Est ou un peu partout dans le pays ne sont pas les étrangers qui sont venus à la suite des guerres qui ont eu lieu dans des pays limitrophes. Deuxièmement, on frappe des crimes qui sont des crimes de violences sexuelles très importants. Vous savez, les violences sexuelles sont un fléau qui mine notre République. Merci. Et ces violences sexuelles sont commises justement par des forces négatives et parfois par des groupes armés qui sont alliés à ces forces négatives ou qui sont allié à des intérêts donc des étrangers. Et c'est un message important pour dire qu'au niveau régional, on doit trouver des mécanismes spécifiques et la CPI répond à cette nécessité. Merci. Parce que figurez-vous, si ce sujet rwandais s'échappait, comment allait-il tomber sous la compétence de nos juridictions avec toutes les questions d'extradition et ainsi de suite.
Merci,
c'est vraiment important qu'on puisse avoir de tels mécanismes et il faut encourager la CPI à aller plus loin, à étendre ses enquêtes sur de plus hautes responsabilités, même des pays qui sont dans des pays limitrophes, des pays étrangers. Parce que la dynamique de la lutte contre l'impunité, ici en RDC, doit être une dynamique qui intègre la dimension régionale du conflit.
Merci, maître. Permettez que je vous arrête à ce niveau. Thomas Louaka, vous avez soulevé une assertion tout à l'heure. Vous avez suivi les interventions du professeur Nyabirungu et de maître Mouchata. Comment vous y répondez?
Non, vous savez, je parle sous le contrôle du professeur Nyabirungu, qui est un grand pénaliste. Mais vous avez un crime. À l'amont d'un crime, il y a le rôle de l'État, en tout cas face par rapport à un crime. Le rôle de l'État, c'est de protéger et d'assurer la sécurité. Lorsqu'il y a défaillance, il n'y a pas assez de sécurité, pas assez de protection, le crime est commis. Dans notre cas, ce qui nous concerne, le crime contre l'humanité. La deuxième étape maintenant en aval par rapport à ce crime-là, c'est de pouvoir organiser des poursuites et des sanctions. On a vu que dans cette deuxième phase, l'État congolais, qui d'ailleurs a participé, le gouvernement congolais, qui a collaboré à l'arrestation de ces messieurs, l'État congolais reconnaît et aujourd'hui, il est dans l'incapacité d'organiser l'arrestation et les poursuites judiciaires et les sanctions contre M. Calixte, responsable de FDLR. Donc aujourd'hui, comme le professeur l'a dit, par rapport à la CPI, soit les gouvernements, ça répondait peut-être à l'une des préoccupations de vos intervenants, pourquoi les Africains, souvent justement parce que les États africains sont défaillants dans ces domaines-là, les domaines judiciaires, c'est pour ça que la CPI intervient souvent dans les pays africains. Donc, dans les cas qui nous concernent, le principe de subsidiarité, de complémentarité, veut que là où l'État congolais ne peut pas faire, la CPI puisse faire. Donc, là, c'est un constat, on n'est pas en train de jeter de l'or propre sur notre propre État, mais c'est un fait, c'est un constat. Il faudrait voir entre nous, Congolais, comment maintenant réveiller ou ressusciter ou faire sortir du coma l'État congolais pour qu'il puisse assumer ses tâches régaliennes.
Maître Moussata a fait tout à l'heure allusion au rapport mapping des Nations Unies. Il y a cet auditeur, Olivier Matadi, qui est à Kinshasa, qui dit « Je me demande si l'arrestation de Calixte Mbarushimana n'est pas une façon de détourner l'attention de la population congolaise sur le rapport mapping des Nations Unies. » Brève réaction, Thomas Loisson.
Je ne sais pas, je ne peux pas faire un procès d'intention. Mais ce qu'il faudrait remarquer, que depuis un certain temps, il y a une dynamique parce que je pense que quand même ce qui s'est passé au Congo ces dernières années est inadmissible. Il y a eu des centaines de victimes des actes de violence, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants ou que ce soit d'autres personnes à l'Est. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau de la communauté internationale, ce qui explique le mapping qui est sorti malgré les menaces d'un gouvernement d'un pays voisin. Le mapping est sorti alors qu'il y a quelques années, et ce rapport, je ne parie pas qu'il aurait été publié lorsque les relations étaient au beau fixe entre la communauté internationale et certains États voisins. Donc je pense qu'il y a quand même une dynamique dans la communauté internationale qui considère que trop, c'est trop. Maintenant, faire un procès d'intention en disant, puisqu'on arrête ce cariste, ça veut dire qu'on va maintenant s'asseoir sur les rapports, sur les mappings, et je ne pourrais pas m'avancer au moins à ce moment-ci, à avancer une telle hypothèse.
Deuxième partie de cette émission, quel pourrait être l'impact de l'arrestation de Calixte Mbarushimana sur la paix et la sécurité à l'est de la RDC? Le gouvernement congolais, pour sa part, se dit satisfait de cette arrestation. Le ministre de la Communication et des Médias a exprimé hier soir cette satisfaction en indiquant qu'elle va avoir un impact majeur sur l'activisme du mouvement des FDLR au nord et au sud Kivu. On écoute le ministre Lambert Mende, joint au téléphone par Marco Mulumba.
Il s'agit de son responsable d'un groupe criminel qui est coupable de beaucoup d'atrocités en République démocratique du Congo. Notre gouvernement s'époumonne depuis des années à demander aux pays européens qui ont accordé l'asile à ces gens, de pouvoir les mettre hors d'état de nuire. C'est un début, nous sommes satisfaits et nous espérons que d'autres tomberont encore dans les filets de la justice internationale.
Par rapport à cette arrestation, est-ce que le gouvernement a des éléments à charge contre la personne arrêtée?
De multiples éléments, puisque même maintenant que nous parlons, des gens de FDLR soutenus par ce monsieur Marushimana, commandés par lui, financés également, continuent à écumer le nord et le sud Kivu, tuant, violant, brûlant tout sur leur passage. Ce n'est pas les éléments qui manquent.
Pour Jason Stearns, expert indépendant sur les questions sécuritaires dans les Grands Lacs, par rapport à l'arrestation de Calixte Mbarushimana, l'impact ne sera pas militaire, mais plutôt moral et symbolique. On écoute Jason Stearns au téléphone de Kevin Kouté.
Je pense que l'impact sera sur les différents groupes armés qui ont des responsables au niveau international. Donc, c'est-à-dire que c'est un signal assez très fort pour les groupes armés, comme la FDLR par exemple, qui ont des leaders au niveau international. Ces leaders, ils sont maintenant très très prudents par rapport à leur propre implication dans les opérations militaires sur le terrain. Parce que Calix, il a été accusé de coordonner au niveau des médias, par exemple, une pression diplomatique et une espèce de chantage qu'il faisait au niveau médiatique, on arrête les opérations contre les civils, tout ça, qui nie cesser les opérations contre les FDLR. Néanmoins, je pense qu'il faut signaler que Félix n'est pas quelqu'un qui était très très influent au niveau militaire sur le terrain. Je ne pense pas que l'arrestation de Félix Mbarushimana aura un bon impact militaire sur le terrain. L'impact sera au niveau moral, l'impact sera au niveau symbolique et diplomatique, mais je ne pense pas que les opérations de financement, les opérations logistiques et militaires sur le terrain seront affectées.
Professeur Raphaël Nabirungu, je rappelle que vous êtes professeur de droit pénal, député national PPRD, avocat à la CPI et au Tribunal pénal international pour le Rwanda. Quel impact de cette arrestation sur terrain dans les Kivu venez de suivre? Impact majeur, impact symbolique, diplomatique, quelle est votre perception?
C'est de dire que le fait qu'un groupe, quel qu'il soit, voit son chef arrêté, c'est un groupe décapité. Bien sûr que on a vu des groupes décapités et qui retrouvaient assez rapidement de nouveaux leaders. Mais n'empêche que faut prendre acte que si Calixte est ce qu'on est en train de nous dire, secrétaire exécutif d'un groupe armé, le groupe armé est décapité. Ensuite, effectivement, la sanction pénale, son rôle, c'est d'abord d'être un avertissement à l'endroit de tous ceux qui seraient tentés d'agir comme Calixte et de savoir qu'ils ne sont pas du tout à l'abri d'une arrestation, d'un jugement et le moment venu d'une condamnation. On peut dire que c'est un message adressé à tous ceux qui seraient tentés de faire de même. Et surtout, au-delà de l'avertissement, je suis sûr que dans ce dossier, le procureur n'a pas à s'occuper d'une seule personne. Une activité militaire de force négative suppose l'intervention de beaucoup de personnes et toutes ces personnes, au jour d'aujourd'hui, sont interpellées et beaucoup d'entre elles, je l'imagine bien, pourront bien renoncer puisque c'est l'occasion de s'apercevoir que leur entreprise criminelle ne laisse pas la communauté internationale indifférente.
Professeur, il y a cet auditeur, Blaise Otongo, il est à Kananga, au Kassai occidental, qui dit « L'arrestation de Calixte, comme bien d'autres déjà réalisées, n'a pas d'effet sur les activités des FDLR tant que des actions militaires concertées n'auront pas été menées au niveau régional. »
Oui, c'est une approche tout à fait valable. Mais en même temps, je crois qu'il faut inscrire tout ce que nous voyons dans une perspective historique. Et je ne pense pas que aujourd'hui les FDLR aient une puissance de feu qu'elles avaient lorsqu'elles ont commencé. La coalition régionale a déjà eu lieu entre les FARDC et les forces du FPR. Et tout le monde a été unanime pour dire que les états-majors de ce mouvement ont été détruits, si pas désorganisés, de sorte que, à la date d'aujourd'hui, les activités des FDLR ressemblent plus à une activité de banditisme qu'à une activité militaire ou politique pour une cause qu'on pourrait éventuellement définir.
Thomas Luaka Losinjola, je rappelle que vous êtes avocat et député national MLC. Pour le professeur Nyabirungu, le groupe est décapité. C'est un avertissement pour tous ceux qui tentent ou qui oseraient tenter l'aventure. Mais on se rappelle que le 17 novembre 2009, Ignace Mourouana-Chaka, un autre responsable, FDLR, a été arrêté. Mais ça n'a pas pour autant empêché le FDLR de continuer de mener des exactions et des atrocités sur ce terrain.
Non, là, je ne partage pas l'optimisme du professeur. Et quant au fait que l'arrestation de Calix va décapiter le FDLR, je ne pense pas que Calix était le chef spirituel de ce mouvement. C'était un cadre comme un autre, un très haut cadre. Mais ce que je voudrais dire ici, je souhaite absolument que cette arrestation, bien sûr, ça va avoir un effet. Tout à l'heure, je dis, c'est quand même un message fort. Mais sur le terrain, je pense que là aussi, il faut revenir à la situation sur le terrain. Quelle est la situation dans le Kivu? Vous avez trois sources d'insécurité. Aujourd'hui, dans le Kivu, vous avez les groupes armés nationaux. C'est des milices congolaises qui sèment aussi la terreur au sein de la population. Vous avez les groupes armés étrangers, entre autres, les FDLR. Et vous avez certains éléments indisciplinés de nos propres forces armées qui sèment aussi l'insécurité auprès de la population. Donc, en disant, puisque nous avons arrêté l'un des dirigeants d'un groupe armé étranger, la sécurité va revenir dans l'équipe, je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, je suis plutôt d'accord à ce qu'aujourd'hui, l'État congolais puisse accélérer la réforme du secteur de sécurité, parce que tant qu'on n'aura pas une armée avec des gens bien encadrés et bien pris en charge, une police digne de ce nom et des services de sécurité professionnels, je pense que la situation des non-droits va continuer à l'Est avec les FDLR ou sans les FDLR. Je crois que c'est ça le plus important. Mais aujourd'hui, c'est dire que puisque Calix a été arrêté, nous pouvons maintenant pousser un ouf de soulagement en disant que la paix va revenir dans les Kivu. Je pense que c'est un raccourci que je ne prendrai pas.
Maître Guy Moussaka, vous êtes chargé des programmes lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Avant de vous donner la parole, maître, prenons cette question d'auditeurs.
Charles Ingen de Kalima au Maniema, vaut mieux tard que jamais, dit-on. L'arrestation des Calistes est un signal fort de la part de la communauté internationale de vouloir réduire la capacité de nuisance de FDLR à l'est du Congo démocratique. Mais ceci n'est pas encore suffisant. La paix dans cette partie du pays passe par un dialogue politique entre le gouvernement de Kigali et le FDLR.
Réaction, maître Guy Moussaka.
Je pense que c'est une question qui est valable. La coopération régionale doit aider au rétablissement de la sécurité, mais c'est une approche qui est aussi partielle. Il faut avoir les questions de sécurité d'ordre traité dans une approche globale. Et la justice, justement, fait partie du secteur de sécurité. Et quand l'honorable Thomas Luaka parle donc de la réforme du secteur de sécurité, il faut y inclure la justice. Et la justice a un rôle fondamental à jouer pour la restauration de l'état des droits et la consolidation de la paix. Les accords régionaux ne doivent pas obscurcir la question de la lutte contre l'impunité. Comme vous le savez, de plus en plus, dans ces accords, il est mis des dispositions pour que la lutte contre l'impunité des auteurs de crimes graves, n'est-ce pas, puisse être effective. Donc, je partage le point de vue de l'auditeur, mais de manière partielle. Il faut une réponse globale qui intègre les perspectives des questions sécuritaires dans une approche exhaustive, y compris des questions de la justice.
Alors, maître, l'auditeur a évoqué une autre approche, le dialogue entre le Rwanda et les FDLR.
Bien sûr, là, il s'agit d'une question interne. J'ai parlé tout à l'heure de la dimension régionale. Ça signifie que, et sur le plan interne, au niveau de chaque pays, il faut qu'on réfléchisse à des causes qui amènent à l'existence de ce groupe armé, mais en même temps que les pays collaborent. S'il existe des problèmes internes au Rwanda, c'est au Rwanda de pouvoir s'en occuper. Mais ça, ce n'est pas ça qui doit empêcher la RDC d'être dans ce droit de vivre pour que cette population vive en paix. Si jamais le Rwanda ne prend pas, le gouvernement rwandais ne prend pas langue avec les FDLR, est-ce que c'est une raison pour que les populations congolaises de l'Est continuent à suivre la loi des FDLR? Il faut que le gouvernement congolais prenne des dispositions, et y compris des mesures de justice qui fassent en sorte que ceux qui sèment la désolation et les auteurs, donc ces auteurs de crimes, soient poursuivis en justice et que l'armée soit renforcée pour pouvoir arriver à sécuriser la population. Et là aussi, il y a le rôle de la communauté internationale, le rôle de la MONUSCO et le rôle de tous les partenaires qui œuvrent dans ces secteurs de réforme de sécurité pour faire en sorte que la réforme puisse avancer et puisse aussi faire exciter ceux de non-concitoyens qui servent dans les forces armées et qui sont, comme le disait tout à l'heure le maire Thomas Nwaka, indisciplinés. Ils ne doivent plus servir dans les rangs des forces armées pour éviter de perpétrer des crimes qui sont commis encore aujourd'hui. Et c'est là qu'on parle justement dans cette réforme de mesures de victimes pour permettre à ce que les mauvais éléments, ceux qui ont commis de graves crimes, soient extirpés des forces armées. En conclusion, c'est pour dire qu'il faut une approche globale qui intègre toutes ces questions dans une perspective qui permette que la sécurité soit tout à fait réelle.
Merci,
l'impact de cette arrestation va rester certainement limité et relatif.
Merci, maître. Professeur Nyabirungu, il y a deux auditeurs, Robert Baumé de Bukavu, suivez-vous. L'arrestation de Calixte Mbarushimana ne signifie pas du tout le démantèlement des positions des FDLR et donc son impact sur la paix à l'est de la RDC ne sera positif qu'à court terme. Encore faudrait-il nécessairement pour une paix durable des actions beaucoup plus énergiques et efficaces que cette arrestation. Samuel Akayaka de Kisangani en province orientale, tout en saluant cette arrestation, cela ne suffit pas car la priorité c'est le dialogue inter-rwandais pour renforcer une cohabitation pacifique dans cette région. Professeur.
Et je crois que les deux auditeurs ont tout à fait raison. Et c'est d'ailleurs une occasion de répondre à mon collègue Luhaka quand nous exprimons notre satisfaction suite à l'arrestation de Calixte. Ce n'est pas du tout que nous puissions ignorer la complexité des problèmes de sécurité qui se posent à l'Est, particulièrement dans les deux Kivu. Il y a des facteurs innombrables sur lesquels il faudra travailler pour arriver à une sécurité définitive, à une paix durable. Je crois que là, c'est un constat général qui fait l'unanimité. Pour ce qui est du dialogue entre les FDLR et le gouvernement de Kigali, cela fait longtemps que plus d'une fois, nous nous sommes insurgés sur le fait que les comportements de FDLR pèsent plus sur le gouvernement de Kinshasa que sur le gouvernement de Kigali. Nous avons toujours demandé que la communauté internationale, qui a suffisamment pleuré sur le génocide de 1994, prenne son courage à deux mains et rappelle à Kigali ses responsabilités vis-à-vis de ses propres citoyens. La présence de Rwandais au Congo, c'est d'abord une affaire du Rwanda. Les FDLR, c'est une affaire du Rwanda. Et le Congo n'est que victime de l'incapacité d'un gouvernement étranger à rassembler tous ses enfants. Maintenant qu'il est démontré qu'un génocide a été commis au Congo, je pense qu'il est temps de déplacer les larmes et de pleurer aussi les enfants du Congo qui ont péri de 1993 à 2003 et de demander que justice soit faite et de demander que le gouvernement de Kigali apporte sa contribution et sa part pour que les Rwandais se retrouvent entre eux afin qu'ils cessent d'être indigènes pour les pays voisins.
Honorable Thomas Luaka, il y a Blanchard Luana de Mbandaka à l'Équateur qui dit l'arrestation de ce chef FDLR n'aura aucun impact sur la consolidation de la paix recherchée à l'est de la RDC pour la simple raison qu'on a eu à connaître beaucoup de ces gens d'arrestation mais qui finissent sans suite. C'est le cas de Laurent Kunda, Bosco Ntaganda et d'autres seigneurs des guerres ayant commis presque les mêmes crimes dans notre pays.
Laurent Kunda et Bosco Ntaganda ne sont pas arrêtés par la CPI, ce qui est différent du cas qui nous concerne aujourd'hui. Je pense quand même que c'est un message, comme je le disais, mais un impact concret sur le terrain, il faudrait attendre un tout petit peu. Mais je reviens sur ce que je qualifie du piège FDLR. Je vois que nous sommes tous tombés dedans, et les professeurs aussi. En quoi consiste ce piège? Quel est le raisonnement des calices de FDLR? Je commets le plus d'exactions possibles dans le Kivu, comme ça, ça va pousser les Congolais à faire pression sur le gouvernement rwandais, à ce qu'on puisse avoir un dialogue inter-rwandais. C'est ça le raisonnement.
Ça veut dire pas, c'est pas un procès d'intention.
Pardon? Non. Parce que qu'est-ce que les FDLR demandent? Les FDLR demandent à ce qu'il y ait des pourparlers autour d'une table avec le gouvernement rwandais. Le gouvernement rwandais dit, nous ne pouvons pas discuter avec des génocidaires. Ceux qui veulent s'amender et revenir au Rwanda sont les bienvenus. Ça, c'est la réponse du gouvernement rwandais. Mais maintenant, c'est nous, les Congolais, qui nous mettons, peut-être de manière involontaire, à devenir les avocats des FDLR pour pouvoir leur demander. Nous ne devons pas subordonner la sécurité et la paix à l'est du Congo à un hypothétique dialogue entre le Rwandais. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que demain, le LRA va venir au Congo et les Congolais, lorsqu'il y aura des Congolais qui vont être tués, c'est le gouvernement congolais qui va mettre pression sur le gouvernement ougandais pour qu'il y ait des dialogues inter-ougandais. Non, je ne suis pas dans cette logique-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que le gouvernement de Kigali ne changera pas d'option en ce qui concerne le dialogue avec les FDLR, nous les Congolais, nous n'aurons pas de sécurité, nous n'aurons pas de paix. Nous sommes un État souverain, mais nous sommes nous des instruments nécessaires pour pouvoir neutraliser et les groupes armés étrangers et les groupes armés congolais pour que les Kivuciens puissent vivre dans la paix et ne pas subordonner notre avenir, notre paix aille à un hypothétique et... comment dire ça, hypothétique dialogue entre le Rwandais. C'est des choses tout à fait différentes. En ce qui concerne les FDLR, je m'arrêterai par là, je pense que nous devons leur donner trois options. La première option, ceux qui veulent rester au Congo, les Rwandais qui veulent rester au Congo, comme réfugiés, seront les bienvenus, mais un réfugié ne porte pas d'armes. Et le gouvernement peut les localiser là où il veut. Deuxièmement, celui qui ne veut pas, la porte est ouverte, qu'il cherche asile ailleurs dans un autre pays. Troisième option, il peut rentrer chez eux au Rwanda. Voilà, nous n'avons pas maintenant là parce qu'ils sont en train de tuer nos frères, nos sœurs, nos enfants, à commencer à plaider leur cas auprès de Kigali. Ce n'est pas notre rôle.
Maintenant, Guy Mouchata, un mot sur les trois options proposées par l'honorable Thomas Louaka et vous concluez aussi brièvement.
Je pense que je l'ai déjà dit dans mon propos, donc il ne faut pas s'enliser dans cette optique de devenir le porte-parole de groupes armés étrangers pour cette pression, mais il faut plutôt participer à la neutralisation dans un processus qui soit un processus qui combine le mécanisme de la justice et le mécanisme de la sécurité. Et pour conclure, donc, je saisis l'occasion pour faire appel aux populations congolaises en général, mais surtout aux collègues membres de la société civile, pour leur dire que nous avons une opportunité avec les rapports du mapping pour revenir à la charge et demander justice, donc que justice soit faite dans un processus qui soit global et où les populations connaissent la vérité sur les atrocités qui leur sont arrivées. Merci. Ils ont la possibilité d'aller en justice et qu'ils obtiennent des réparations. Et nous devons tous travailler donc à la sensibilisation pour la divulgation de ces rapports et demander à notre gouvernement de canaliser les aspirations de la population pour la justice.
Merci, maître professeur Nyabirungu. Un mot en guise de conclusion.
Je me rallie à toutes les analyses, aussi bien de mes collègues sur le plateau que des auditeurs. Il y a un frémissement au niveau de la communauté internationale. Il y a des opportunités à saisir pour que la justice soit faite et pour que les victimes soient réhabilitées dans leur dignité et dans leur mémoire.
Merci, professeur honorable Thomas Louaka.
Un seul mot. Je dis aux populations du Kivu, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil de la paix et de la sécurité apparaîtra au ciel.
Merci, c'est par vous que nous terminons cette émission. Retrouvez-la sur www.radiokabi.net ou réécoutez-la en FM à 4h15 heure de Kinshasa. Bon soutien au programme sur Radio Kabi. Thank you.